আমাদের 615 ফ্লাইট থেকে তার ধরবার দেবে।
C'est le Feed Mag jusqu'à 19h sur les 3-8 de la Grenouille. Alors après Arnaud Despalières mercredi dernier, l'autre histoire du cinéma mexicain jeudi, Philippe Grandlieu et Eric Baudelaire vendredi, un samedi en compagnie des Printemps Arabes. Ce soir nous recevons Churcho Chiro qui est espagnol et qui a montre ici un film qui s'appelle Vikingland. Et nous entendrons également le réalisateur Daniel Eisenstein pardon, qui a fait un film qui s'appelle The Unstable Object. Donc jusqu'à 19h, les chroniques, ce sera ce soir la chronique de Clément autour du film des jeunes gens modernes, la chronique de Julien avec, en compagnie de Gilles Grand autour des conversations secrètes, le film de Coppola. Et enfin, Sylvain Gonzalez a rencontré Elsa Kinnett, qui est la réalisatrice de La vie est ailleurs, pour sa chronique coupée. Alors, Churcho Chiro est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Votre film Vikingland est un film qui a été fait avec des bandes que vous avez trouvées d'un marin espagnol qui s'appelle Luis et qui s'est filmé dans son lieu de travail, qui était un brise-glace, un bateau. Donc, on ne sait pas trop où. En tout cas, à un certain moment dans le film, le bateau est carrément pris dans les glaces. Donc, on imagine que c'est très, très au nord. Le film, d'ailleurs, s'appelle Vikingland, donc ça donne aussi une indication. Vous les avez trouvées où, ces bandes, Churcho?
Este material estaba oculto, bueno, a la vista, estaba justo debajo del reproductor de vídeo, debajo de la televisión de la casa de mis padres.
Alors, Anaïs Derieux va assurer la traduction de Churcho.
Oui, alors ce matériel vidéo était finalement à la vue, juste en dessous de la télévision dans la maison de mes parents.
En el 2007, cuando cambié el reproductor de vídeo por el DVD, pues antes de tirar las cintas de VHS, pues decidí comprobar lo que contenía.
En 2007, quand j'ai voulu changer le magnétoscope VHS pour un lecteur DVD, j'ai trouvé ce matériel, mais j'ai voulu d'abord vérifier ce qu'il contenait.
Et la surprise fut incroyable, asombrosa, maravillosa. Un regalo.
Et la surprise a été grande, incroyable et un vrai cadeau.
Qui est ce Luis qui se filme sur ce bateau? C'est quelqu'un que vous connaissez?
Luis es un vecino de un del pueblo donde yo soy. Trabajó con mi padre en la emigración en el norte de Europa. Y
Luis est mon voisin de mon village d'où je viens. Il travaillait avec mon père sur le bateau.
El material se lo regaló a mi padre. Su material, sus copias se perdieron. Y Luis le pedí permiso para trabajar ese material. Y fue muy generoso de su parte y me dio luz verde.
Luis avait offert le matériel vidéo à mon père. Ses propres copies ont été perdues et j'ai demandé à Luis la permission d'utiliser ce matériel et il m'a donné feu vert complet.
Alors on parlera en détail de ce Vikingland dans la suite de cette émission, mais on va écouter une première chronique, celle de Clément Baudet qui s'intéressait au film des jeunes gens modernes.
Oui, c'est bien ça, Marc. Alors, Des jeunes gens modernes, c'est un film de Jérôme Isols qui est projeté lundi à 11h, lundi 11 à 16h à la petite salle de la Criée. Alors, Cold Wave, Post-Punk, Novo, au début des années 80, on ne savait pas comment les appeler. Le journal actuel les baptisera Jeunes gens modernes. Et Des jeunes gens modernes, c'est donc le titre de ce film. Alors, je connaissais l'entrisme, cette stratégie politique que l'on doit à Trotsky, qui consistait pour une organisation à introduire introduire dans une autre certains de ses militants afin d'en modifier l'orientation et la ligne d'action. Mais je ne connaissais pas du tout la revue Entrisme. C'est une publication trimestrielle et mutante, actuelle et transversale, comme elle se définit, qui mêle avec joie littérature, photographie, culture geek, musique ou architecture. Des jeunes gens modernes de Jérôme Isols, c'est la rencontre de l'équipe de cette revue Entrisme qui s'interroge sur l'idée de la modernité. Alors une question sans fin et sans interruption pendant les 100 minutes de ce documentaire. Et il rencontre notamment 69, l'exécuteur testamentaire d'Yves Adrien, que je ne connaissais pas. Cet écrivain est dandy français, révélé par les articles dans Rock and Folk au début des années punk et surtout par son livre Novo Vision. Yves Adrien, un personnage qui comporte de multiples facettes. Physiquement, ça pourrait être un mix entre Iggy Pop, qu'il a bien connu, et Willy Wonka, tout habillé de noir avec sa chapka. C'est l'inventeur et l'apôtre donc, de l'expression novo. Ses visions touchent toujours aussi juste et inspirent la faune intello-rock parisienne. Prophète, poète, critique, romancier, il devient un personnage tout l'inverse d'une personnalité et il changera de nom pour devenir Orphan. Et à l'écran, c'est sa dernière incarnation du nom de 69, son exécuteur testamentaire qui le fait revivre comme un fantôme. Alors comment témoigner de l'esprit d'une époque lorsque la réalité toujours mouvante se dérobe dans une fuite en avant? C'est un peu la question qui anime tous les participants à ce film. Difficile de replacer la réalité dans le contexte de son époque et c'est à travers ces jeunes de la revue Entrisme comme un trait d'union entre les générations que l'on est introduit dans la folie des années 80 et le phénomène post-punk. Reviennent à l'écran des icônes de ces années, Edwige, Égérie de la nuit parisienne, Lio et bien d'autres. Le film est truffé d'images d'archives des années 80. On y voit Gainsbourg, Mitterrand, Lerita Mitsuko, Taxi Girl, dont les titres les plus connus et joués dans ces années-là se mêlent au nouveau groupe d'aujourd'hui, Crystal Castles, Cheveux, Pony Ox, Fuck Buttons, pour ne citer que les quelques titres de cette titillante BO du film qui donne vraiment envie de se plonger dans cette période pour mieux connaître les influences de la création musicale d'aujourd'hui. À l'écran alternent différents supports. Les jeunes d'aujourd'hui connectés surfent sur le web pour communiquer, pour s'informer, pour se renseigner sur la figure d'Yves Adrien, par exemple, comme on le voit au début du film. Qui sont ces jeunes gens modernes d'aujourd'hui? Alors c'est une jeunesse un petit peu, premièrement parisienne et hédoniste que l'on voit à l'écran, qui ne s'inscrit pas, comme le dénonce 69, dans la reconquête du paradis perdu, mais qui pense à créer, à avancer, dans un monde en constante mutation, une jeunesse qui s'inspire de ce qui a été fait avant, tout en revendiquant ses racines. Que faire pour demain? Qu'est-ce qu'on peut créer? Vers où allons-nous? C'est des questions que se posent tous les jeunes, chaque génération. Et personnellement, j'ai toujours voulu savoir comment nos parents se pensaient leur époque en 1980, comment ils voyaient le futur, comment ils se projetaient. Mais on ne pourra vraiment jamais le savoir, même eux l'ont parfois oublié. Et ce film, c'est un peu un témoignage, un joli témoignage même. La rencontre entre deux générations qui discutent de leur époque respective, de leur vision, de leurs espoirs, de leurs craintes. Un testament des années 80 que je vous invite à découvrir, surtout si vous êtes comme moi, né à la fin de ces années-là, bercé par ces influences comme un héritage précédé d'aucun testament. Eh bien, ce film, c'est peut-être quelque part une forme de testament des années 80 qui dialogue avec une certaine jeunesse d'aujourd'hui, bien que parisienne. Un film documentaire donc qui interroge et qui donne envie de se plonger et de se documenter sur cette période. Et Des jeunes gens modernes donc de Jérôme de Misols s'est projeté lundi à 16h à la petite salle de la Criée. Et ce sera également dans les salles de cinéma, mais pas avant la fin de l'année. Donc je vous invite à en profiter du feed pour venir découvrir ce documentaire.
Merci beaucoup Clément. Chouchou Tiro, vous, votre film n'a plus de projection. Feed, la dernière projection, c'était cet après-midi. C'est un film qui va circuler dans d'autres festivals ou qui va connaître des diffusions ailleurs ou pas?
Estar en Marsella, en el Feed, supone un sello de calidad absoluta. Es para mí el mejor festival de documentales del mundo.
Pour moi, que le film soit au FID, c'est vraiment un signe, un tampon de qualité pour le film, étant donné que le FID est pour moi le meilleur festival de documentaire au monde.
Y supongo que eso abrirá bastantes puertas en selección con otros festivales. Y mi objetivo final es que se vea en Galicia, obviamente.
Et je suppose que cela ouvrira des portes au film pour qu'il soit sélectionné dans d'autres festivals. Mais en tout cas, mon objectif final est qu'il soit projeté en Galice, d'où je viens.
C'est votre premier film. Quelle est votre activité dans la vie?
Anteriormente, hice pequeños trabajos, cortometrajes, todos documentales, algunos con material encontrado ya. pero no soy, no me dedico a esto profesionalmente.
Dans le passé, j'ai déjà travaillé sur d'autres documentaires, des courts, des courts-métrages, et puis parfois aussi sur du matériel déjà existant, mais ce n'est pas mon activité professionnelle.
Vicky Lang es un proyecto de tesis. Yo trabajo en un organismo que da ayudas de la administración a hacer películas.
Vicky Lang est mon travail de thèse. Moi, je travaille dans un organisme qui permet d'aider, qui finance des projets.
Como funcionario, estaba cansado de ver cómo se distribuían fuertes cantidades de dinero y las películas resultantes no me gustaban. Entonces...
Moi, comme fonctionnaire, j'étais fatiguée de voir comment se distribuait l'argent et que finalement les films qui en profitaient ne me plaisaient pas.
Entonces, yo quería demostrar que se podía hacer buenas películas con mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero el dinero no era lo primordial.
Donc finalement, je voulais démontrer qu'on peut faire des bons films avec beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, mais que finalement, l'argent n'est pas l'élément primordial.
Alors, dans ce film, on voit Luis, un ami de votre père, marin espagnol, sur ce brise-glace, dans un endroit dans le Nord, on ne situe pas exactement. En tout cas, on sait que c'est en 93-94, parce que la date apparaît sur la caméra qui, semble-t-il, il a récemment... acheté pour se filmer. Le film commence sur des séquences plutôt rigolotes où il apprend à manipuler la caméra. La caméra passe de main en main. Les copains donnent leur avis, leurs conseils pour pouvoir l'utiliser. Il y a toute une série de maladresses qui donnent le sourire. Et plus le film va avancer dans les glaces, plus c'est les sentiments de solitude, de mélancolie et d'isolement qui vont apparaître. Mais sur cette question de la maladresse de Luis, c'est des choses que vous avez gardées intentionnellement. Pour quelles raisons ? Est-ce que c'est simplement pour la dimension humoristique des choses ou est-ce qu'il y a d'autres raisons ?
Para mí hay una secuencia primordial al inicio de la película, que es cuando el marinero alemán le explica cómo funciona la cámara y cómo tiene que grabar.
Pour moi, il y a une séquence primordiale au début du film, c'est quand le marin allemand prend la caméra et lui donne des conseils sur comment l'utiliser.
El marinero alemán le dice que tiene que tener la cámara quieta y grabar lo más posible. Para que la imagen salga en perfectas condiciones.
Le marin allemand lui dit qu'il doit tenir la caméra de manière stable et filmer le plus possible pour pouvoir réaliser ce qu'il veut faire dans les meilleures conditions.
Para mí ese principio supone uno de los mayores requisitos de la modernidad cinematográfica, del cine contemplativo. Yo tengo mis referencias. Cineastas como James Benning, Sharon Lockhart, Barbara Hammer.
Donc pour moi, au début, cela suppose ou fait référence aux plus grandes, aux plus grands critères pour la modernité et le ciné contemplatif. Moi, j'ai mes propres références, Sharon Lockhart, Barbara. James Benning.
Y el resultado final es de una limpieza de imágenes que es a tener en cuenta y que el significado de lo que quiere mostrar se magnifica.
Et donc pour moi, le résultat final, c'est des images propres, pures, et qui a comme signification de magnifier ces images.
De todas maneras, la cuestión del metalinguaje, de cómo piensa los planos, la duración, las grabaciones. Eso era una realidad consciente para que el documental creciese en realidad, porque eso era un artificio creado a mayores de la realidad que quería registrar Luis.
Anaïs va sortir, mais elle note en même temps pour oui, pas oublier.
Donc de toute façon, pour moi, la question du métalangage, de comment s'organise le film, de la durée, des plans, des séquences, pour moi, c'est tout ça, c'est une réalité consciente, c'est un artifice créé pour représenter la réalité qu'avait Luis, que voulait donner Luis.
Vous avez parlé avec Luis de ce film, justement.
Sí, él está muy contento por el trabajo que realicé. Dice que lo que hice está mejor de lo que él grabó.
Donc Luis est très content du travail que j'ai fait. Il dit que même que le résultat est meilleur de ce qu'il a lui-même filmé.
También le da pena de que la película se vea por todos los festivales y tenga la repercusión que tiene. Porque, según me dijo él, que se grabaría en situaciones más peligrosas.
C'est un peu dommage, il a un peu honte que le film se montre dans ces festivals, dans ces conditions, car en tout cas, s'il l'aurait su, il se serait sans doute filmé dans des situations plus dangereuses, plus risquées.
Ah oui, mais il accepte. Alors, parce que c'est vrai qu'il y a un côté voyeuriste, du coup, puisque c'est des images qui n'étaient pas destinées à être rendues publiques. On imagine qu'il s'est filmé pour lui, pour sa famille, ses amis, mais pas au-delà. Et du coup, on a l'impression de pénétrer une intimité de façon très radicale. Et ouais, voilà. Donc,
Yo tenía mucho miedo sobre esas secuencias de una intimidad bastante desnuda. Y
moi j'avais peur justement de ces séquences d'intimité mise à nu.
Pero le pregunté si me daba su consentimiento de utilizarlas y él dijo que si no era para causarle ningún daño a su persona y perjudicarlo, pues adelante.
Mais je lui ai demandé la permission d'utiliser complètement ces images. Lui, bien sûr, il m'a demandé si ça n'allait pas lui causer du tort à son image.
Una de las cosas que me gustaba, sobre todo de la película, era la relación entre el hombre y la cámara, y quería también mostrar toda esa evolución. Y entonces, el principio era como un juguete donde se le daban muchas atenciones y luego se olvidaba.
Moi, ce que j'ai aimé montrer dans ce film, c'est la relation entre l'homme et la caméra. J'ai aimé montrer cette évolution de relation. Au tout début, c'est un jouet auquel on donne beaucoup d'attention, et ensuite ça devient quelque chose qu'on oublie, qu'on laisse dans un coin.
Merci beaucoup Chorcho Chiro d'avoir répondu à notre invitation pour ce FIDMAG qui est sur les 3-8 depuis mercredi dernier jusqu'à demain, lundi 11, à l'occasion de la 22e édition du Festival international du documentaire. On va faire une première pause musicale et on trouvera ensuite les chroniques de Julien, une interview de Daniel Eisenstein, réalisateur de The Unstable Object, et la chronique de Sylvain Gonzalez aussi. La pause musicale est signée Beyrouth, c'est un groupe américain. Ils seront en concert au sud à Arles mardi prochain, le 12, et ils ont fait une chanson qui s'appelle Nantes et qui pourrait être une chanson de marin.
It's been a long time, long time now since I've seen you smile, and I'll gamble it's been a long time, long time ago since I've seen
Le Feedmag en direct et en public du théâtre de la Criée jusqu'à 19h sur les 3-8 à l'occasion de la 22e édition du Festival international du documentaire. Seconde chronique de ce Feedmag, Julien Kirsch qui mène des conversations secrètes avec Gilles Grand. Et ce soir, ils ont carrément parlé d'un film qui s'appelle aussi Conversations secrètes, signé Francis Ford Coppola.
Exactement, c'est donc la troisième chronique autour de cette programmation de l'écran parallèle Conversation secrète avec Gilles Grand. Et donc le film de Francis Ford Coppola dont est tirée finalement toute la programmation, Conversation secrète aussi, est un film très rare puisqu'il est très difficile à obtenir ou à regarder, sauf pour certains qui ont la chance d'avoir le câble. Mais sinon, c'est un film très rare et Gilles Grand nous en parle. On écoute ça, il ne sera plus projeté au feed, donc on espère qu'il ressortira bientôt en édition.
Donc là, il faudrait que j'arrive à faire des bruits électroniques. Qui coupe comme ça, non pas des bégaiements, mais qui coupe la réception. C'est-à-dire, en fait, je devrais tenir 5 minutes avec des trucs qu'on ne peut pas écouter, qu'on peut pas. Il faudrait deviner. Peut-être qu'ils nous tueraient s'ils en avaient l'occasion. C'est ça la phrase qui est cachée en fait, qui commence par être vue et pas entendue. Peut-être qu'ils nous tueraient s'ils en avaient l'occasion. On voit l'homme à lunettes, habillé très années 70, comme ça, grande lunette, costume beige, s'adresser à une femme brune, et on voit que le mouvement des lèvres. Et une deuxième fois, on reverra cette scène. Et pourquoi on n'entend pas? Parce que quelqu'un joue du bongo. Il y a du bongo très fort devant en fait, qui empêche totalement d'entendre ce qu'il dit, mais on voit ses lèvres bouger, il lui dit une toute petite phrase, très courte. Peut-être qu'il nous tuerait s'il nous en avait l'occasion. Et le film de Francis Ford Coppola, The Conversation, film tourné en 72, en même temps que Le Parrain, finalisé en 74, et qui obtiendra la Palme d'Or au Festival de Cannes en 75 en France. Donc ce film primé, reconnu, ce film d'un petit studio, parce que Coppola et ses amis sont en train de fabriquer Zoetrope, la petite boîte de production qui leur permettra de faire les films dont ils ont envie. Et pour ce faire, il a besoin de faire... c'est comme ça que Coppola entend les choses. Il a besoin de faire un gros film de studio, Le Parrain. Et d'ailleurs, il y a des scènes qu'il n'arrivera pas à tourner pour Conversation secrète, parce qu'il est totalement pris en fait par Le Parrain, alors même que le film Conversation secrète est en train de se finaliser, se mixer, se monter. Ce film est la matrice de l'écran parce qu'il contient plein d'éléments qui ont été déployés dans le programme et expliqués, des situations d'écoute, des situations d'attention, il comprend tous les régimes de musique, mais c'est surtout un film qui est devenu rare alors qu'il avait tout pour être célèbre. Mais comme il est pris entre Parrain et Parrain 2, ces deux films à grand succès produits par des studios, le petit studio Zoetrope, en fait, n'a pas beaucoup défendu la distribution de Conversations secrètes. Donc c'est un film mythique qui contient tout à l'intérieur, mais que très peu de gens ont vu. Ou très peu de gens l'ont vu dans des bonnes conditions, c'est-à-dire sur un écran. Parce que la copie que nous avons réussi à obtenir, elle nous provient de la Cinémathèque suisse, avec d'élégants sous-titres allemands et français qui ne gâchent pas l'image parce qu'ils sont très minimaux. nous livrera cette phrase, peut-être qu'ils nous tueraient s'ils en avaient l'occasion, cette phrase qui sera répétée plein de fois, alors que Gene Hackman a sorti un filtre pour essayer de faire cette opération impossible à son époque. Comment voulez-vous masquer totalement le bruit d'un bongo, une percussion, quoi, un truc qui fait beaucoup de bruit comme ça? Comment vous voulez masquer, c'est beaucoup plus fort que ça, parce que là je tape sur ma jambe, mais pas sur un instrument de musique, qui est devant le microphone alors que quelqu'un derrière dit une toute petite phrase. Peut-être qu'il nous tuerait s'il en avait l'occasion. Il y a tout un processus dans ce film qui va apprendre aux spectateurs qu'est-ce que c'est que capter du son pour faire un film. Donc il y a à la fois une explication des procédures d'enregistrement, de captation. C'est pour ça qu'il y a ces bruits électroniques qui coupent. Parce que c'est une radiodiffusion, donc il y a des ondes radio qui se perdent. Et il y a des musiques électroniques qui s'ajoutent. Alors, puisque je parle de musique, réglons la question de David Shire. Non pas parce qu'il faudrait la régler, mais la partition est essentielle, belle, économique. Elle est au piano, donc elle est simple, elle n'est pas chère. Ce n'est pas un orchestre symphonique et ce n'est pas un ensemble particulier. Mais la particularité surtout de cette musique, elle a été composée sur scénario. Le scénario de Conversation secrète existait, Coppola avait travaillé dessus, et il a livré ça à David Shire. Il lui a dit « Bon, vois ce que tu peux faire ». Et c'est avec la musique pour piano de David Shire que Coppola a tourné les scènes avec Gene Hackman. Donc il y a des scènes qui sont tournées comme l'avait réinventé Stanley Kubrick, qui l'empruntait lui-même au cinéma muet. C'est-à-dire quand on veut que plusieurs personnes aient le même, soient dans le même allant, dans la même allure, eh bien, on lance une musique et du coup les gens se calent soit en accord, soit en désaccord par rapport à la musique, mais ça les dirige quelque part. Et Gene Hackman a joué toutes les scènes du film, presque, avec cette musique préexistante, qui évidemment a été supprimée lors du montage. Et David Shire a fait des nouvelles propositions, soit en reprenant les mêmes, soit en modifiant légèrement les compositions, pour terminer le travail musical.
Kill us. He'd kill him if he had a chance.
He'd kill us if he got the chance.
Oh God, what I've done. I have to destroy the tapes. I can't let it happen again.
Mais Conversation secrète est la matrice de l'écran, parce que dedans sont contenues des considérations sur l'architecture. Un immeuble est détruit à travers la fenêtre, derrière Gene Hackman en slip dans son canapé. Un immeuble s'érige lorsqu'on s'approche des commanditaires. Donc l'architecture, on la retrouvera dans d'autres films et d'autres écrans. Il y a tellement de choses, en fait, qui sont comprises dans ce film sur la question du son, son rôle, la manière dont il nous échappe, la manière dont il nous trompe. En fait, il nous tuerait s'ils en avaient l'occasion. Il nous tuerait s'ils en avaient l'occasion. Il nous tuerait s'ils en avaient l'occasion. C'est une phrase qui, à la fois, peut être une phrase de peur. J'ai peur qu'ils nous tueraient s'ils en avaient l'occasion. Ou au contraire, une phrase de meurtre. C'est de toute façon, ils nous tueraient s'ils en avaient l'occasion. Donc à ce moment-là, autant les assassiner d'abord, c'est-à-dire autant être les premiers. Donc, une intrigue, une situation très compliquée, beaucoup d'écoute, une magnifique pellicule dans un film en mono, une chose que vous n'avez jamais entendue que au cinéma, puisqu'après ce film a été remasterisé en stéréo. Conversation secrète, Francis Ford Coppola. Et tout ça pour s'approcher encore une fois de Walter Murch.
Listen, listen. My name is Harry Call. Can you hear me?
Voilà, un film de plus qu'on a trop envie de voir maintenant. Merci Julien, surtout qu'il est introuvable. Donc voilà, on espère que les détectives privés du cinéma vont trouver ce film, vont faire des sorties, des DVD, tout ça, les copies et tout, que ça va tourner, tout ça. Ce film mag se poursuit. Alors tout à l'heure, on était avec un marin galicien sur un brise-glace du côté certainement de la Norvège, la Finlande, par là-bas. Maintenant, avec le film de Daniel Eisenstein, The Unstable Object, on va aller entre États-Unis, Allemagne et Turquie. C'est un film aussi qui s'intéresse au travail. Louis, c'était un manutentionnaire sur le brise-glace. Lui, il est allé, Daniel Eisenstein, donc, dans The Unstable Object, est allé dans une usine de fabrication en Allemagne de voitures de luxe. Aux États-Unis, il va dans une usine de fabrication d'horloges, des horloges qui sont fabriquées par des aveugles. Et en Turquie, pas très loin d'Istanbul, il va dans une fabrique de cymbales. C'est un film qui se situe... les trois séquences, donc c'est un triptyque, les trois séquences sont de durée rigoureusement égale. Et c'est un film entre abstraction conceptuelle et sensualité, comme il nous l'a expliqué dans cette interview qui va suivre, qu'on a enregistrée ce matin. Parce que là, en ce moment même, Daniel Eisenstein est en agora, c'est-à-dire que son film vient d'être projeté, il est en rencontre avec le public. Donc pour commencer l'interview, j'y ai demandé de nous parler de ses films précédents, la façon dont ce dernier film était relié à ses films précédents. Daniel Eisenstein.
My last film, which was in, the title is Something More Than Night.
Mon dernier film qui était intitulé Something More Than Night.
Is a film shot exclusively at night on the streets of Chicago.
Est un film qui a été exclusivement tourné de nuit dans les rues de Chicago.
And many of the locations that I was attracted to were sites of labor and work.
Et beaucoup des sites de tournage étaient des sites de travail.
And I became interested in this idea of Chicago as a location of manufacture and it's a beginning, moment of inspiration about thinking about labor.
Et donc j'ai commencé à m'intéresser vraiment à Chicago comme lieu de tournage et vraiment lieu d'usine, lieu où il y avait beaucoup de manufactures et comme lieu qui symbolisait aussi tout le monde du travail.
And so many of the shots in Something More Than Night are singular shots but very long takes. So the eyes and the ears are very involved, it's a very sensual kind of relationship between the viewer and the image.
Beaucoup des plans dans mon précédent film sont des vues très intimistes entre celui qui regarde et ce que je filme.
And this sensuality is also a place of inspiration, and so the new film, which is consists of three sites of labor.
Donc justement, la sensualité, c'est une thématique qui m'intéresse, et justement, mon nouveau film est filmé sur trois sites de travail.
They're very involved in the sensuality of place.
Et vraiment, il y a un lien très fort avec la sensualité des lieux en eux-mêmes.
Il y a un rapport avec la sensualité, mais aussi avec une idée d'instabilité. Votre film s'appelle L'objet instable. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui faisait partie, cette notion d'instabilité, de vos précédents travaux ou pas? Et quelle est-elle exactement?
Yeah, I understood. What's unstable is our situation.
On peut dire que ce qui est instable, c'est notre situation en elle-même.
Our economic situation, our relationship to work.
Notre situation économique, notre relation au travail.
Our relationship to things themselves.
Et la relation que l'on a avec les choses en elles-mêmes.
Now, things such as a cell phone or even a tape recorder, they've been reduced in size.
Les objets de notre quotidien, les téléphones portables, même ce micro en lui-même, ont été réduits dans leur taille.
And their meaning has expanded at the same moment.
Mais par contre, en opposition, en même temps, leur signification s'est étendue.
And this kind of movement of expanded meaning and reduced presence.
Et ce mouvement contigu de réduction de la taille et d'élargissement du sens de ces objets.
It is a signal kind of quality of our time.
C'est un signe de qualité de notre temps, de notre époque.
So I became quite interested in what things mean.
Et voilà, et donc j'ai commencé à m'intéresser au thème de la notion, de la signification des objets.
Mais en quoi le sens des objets s'est développé?
To what extent do you think that the meaning of things has expanded?
I don't know if expanded is the only thing. Some things have contracted, reduced. Other things have expanded. It's a moment of shift.
En fait, il s'agit surtout d'un moment de transition, un moment de changement dans notre société où effectivement certaines choses, certaines notions se sont élargies et d'autres se sont rétrécies.
And the meaning of labor has also shifted.
Et le sens, la signification du travail aussi s'est transformée.
There was a time when people identified with their labor and what they did.
À une époque, les gens s'identifiaient vraiment à leur travail, à ce qu'ils faisaient comme métier.
And now that's less of a strict and tight relationship.
Et maintenant, finalement, la relation au travail est moins stricte, est moins ténue.
Dans ce film, donc, l'objet instable, vous allez dans trois lieux différents, une usine de fabrication de voitures de luxe, une usine de fabrication, alors ça c'est en Allemagne, une usine de fabrication de linge aux États-Unis et un atelier de fabrication de cymbales en Turquie. Que représentent pour vous ces trois lieux ?
Well, the first site is a site, as you mentioned, of the luxury car factory.
Effectivement, donc le premier lieu dans lequel j'ai tourné est une usine donc de création de voitures de luxe.
A place where people come and watch their own car being produced.
C'est un lieu où les gens viennent regarder leur propre voiture être construite, être fabriquée.
And the meaning of labor in this site is one in which it is visualized. It's made visible to the person who is buying the object itself.
C'est un lieu particulier puisque c'est un lieu vraiment où l'on montre au client l'objet qu'il va acheter en train de se fabriquer.
And this kind of transition of labor so that the labor is consumed as well as the car itself.
Voilà, et là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement, le travail en lui-même est consommé autant que l'objet qu'on va acheter puisqu'on est sur un site de travail.
And so the value of the car is in the watching of the labor.
Et donc finalement, la valeur de l'objet, la valeur de la voiture, se situe dans la vision qu'on a de sa fabrication.
In the second site, the place where blind workers who do not see at all.
Dans le second lieu, où ce sont des aveugles qui fabriquent des horloges, donc ils ne voient pas ce qu'ils fabriquent.
They produce an object that they themselves can never use.
Ils produisent un objet que eux-mêmes ne pourront jamais utiliser.
And there's an exchange that occurs in the object itself.
Et finalement, il y a un échange qui se passe avec l'objet en lui-même.
It's an object that is touched by hands in every aspect and every surface.
C'est un aspect, c'est un objet qui est touché, qui est manipulé par les ouvriers.
And at the moment of its departure and acceptance by the person who buys it, an exchange of senses occurs.
Et au moment de l'achat de l'objet, quand la personne qui l'achète touche cet objet, il y a un échange, il y a un partage de sens, encore une fois, de sensualité.
Because the clock is something that can only be consumed with the eyes.
Parce qu'en fait, l'horloge est un objet qui ne peut être consommé qu'avec les yeux.
In fact, it is maybe touched once or twice in its entire lifetime to be put up, to change a battery, something like that.
D'ailleurs, potentiellement, dans sa durée de vie, une horloge, on la touche une ou deux fois pour y mettre une pile, pour l'accrocher au mur, pas plus.
And this is an extreme kind of sensual consciousness.
Et c'est une conscience extrêmement sensuelle de l'objet.
In the third site, the site of a kind of antique technology.
Dans le troisième site, où là on est plutôt sur de la technologie plutôt ancienne.
The object that's produced is the same that was produced 400 years ago.
L'objet qui est produit est exactement le même objet qui était produit il y a 400 ans.
And very much like the first factory, each object is a unique object.
Et finalement, un peu comme dans le premier site de production, chaque objet est un objet unique.
And its value comes from this old technology.
Et sa valeur provient de son ancienne technologie.
And of course, it's produced by a hammering process and a manufacturing process that accentuates sound.
Voilà, et la manière de produire ces objets est faite avec des marteaux, avec quelque chose qui produit du son.
So the same manner in which it's produced is a kind of parallel to what it's used for.
Voilà, il y a donc un parallélisme, un parallèle entre la manière de fabriquer l'objet et la manière dont on l'utilise ensuite.
Now, if you ask me what the logic is, I could never tell you.
Après, si vous me demandez de quelle est la logique derrière tout ça, je ne peux pas vous dire.
Because the mind doesn't really work like that. You think about what a sight or you have a concept for a piece, and your thinking just sort of is more associative.
Voilà, l'esprit humain fonctionne de cette manière-là. On a un concept, on fait des pérégrinations et on avance dans l'idée progressivement.
And so one idea leads to the next, one sight leads to the next, and then so it the three sights are kind of sweet. There's no real strict logic between them, but they have many points of relationship and intersection.
Alors on peut pas dire qu'il y a une suite logique d'un site à l'autre. Par contre, il y a un vrai fil rouge et une interaction entre ces trois sites.
It's a kind of conceptual and analytical poetics.
Je dirais que c'est plutôt une poésie conceptuelle et analytique.
Le film, donc, autour de ces trois lieux de travail, ce sont trois séquences différentes qui ont l'air d'être rigoureusement de la même durée dans le film. Et pourtant, on n'a pas la même sensation de temps qui passe dans ces trois séquences. Est-ce que vous avez fait un travail particulier dans ce sens-là, de rapport entre la durée des séquences et la perception du temps qui peut en découler ?
Well, each sequence has a different cutting logic.
Chaque séquence a un montage et des coupures différentes.
In the first sequence, there's a kind of parallel cutting. Sites, different sites within the factory have a kind of presence that is accumulated.
Voilà. Dans la première séquence, par exemple, le montage montre différents espaces du site qui sont tous montrés donc dans leur accumulation.
The second one is the true montage, where and it's very tactile, a very kind of physical relationship of sound and image.
Dans la deuxième partie, on est vraiment dans un montage très sensuel, très physique, autour du son, autour des objets.
And in the third sequence, we follow a kind of logic of production.
Et puis dans la troisième séquence, là, finalement, on suit plutôt la logique de production.
Which is also very sensual.
Qui est aussi très sensuel.
And so each one has a different sense, a different kind of feeling. And so there's also a set of relationships of experience that are set up between them.
Donc finalement, voilà, chaque expérience vit en elle-même, mais il y a aussi des liens de l'un à l'autre, des correspondances entre ces différentes séquences.
Vous insistez sur la notion de sensualité. Quels sont pour vous les enjeux qu'il peut y avoir dans cette notion de sensualité, en fait, liée au travail?
Talk about sensuality. What is at stake in this notion of sensuality? What do you mean behind that?
It's an interesting question, and I think it's a very essential one for right now.
Je crois que c'est une question très intéressante et très actuelle, très importante de nos jours.
People are watching movies on screens that are 1 inches by 2 inches in size.
Voilà, le public maintenant regarde des vidéos sur des écrans de 1 cm sur 2.
And I wonder what's the sensuality of that image.
Et je me demande vraiment quelle sensualité se trouve dans ce type d'image minuscule.
Certainly it has one.
Très probablement il y en a.
But I prefer a different kind of sensuality with images.
Mais je suis plus sensible à une autre forme de sensualité dans les images.
And I say this not as a kind of reference to cinephilia, but to how an image and sound has its own kind of power.
Alors, il ne s'agit pas là d'une référence purement de cinéphile, mais c'est vraiment une réflexion sur comment une image et un son ont un pouvoir, ont une puissance.
And we experience images and its relationship to the world differently when it's sensual.
Et nous avons vraiment une relation à l'image très différente quand elle est sensuelle.
That also, for me, my own work and my own thinking about images had become increasingly abstract.
Et ma façon de travailler, ma façon d'aborder l'image est devenue de plus en plus conceptuelle, de plus en plus abstraite.
And I wanted to find a way back.
Et j'ai voulu quelque part revenir un peu, retourner vers un peu moins d'abstraction.
Without losing the abstraction and conceptual nature of my thinking as well.
Voilà, sans pour autant perdre cet aspect conceptuel et abstrait, mais quand même retourner vers un peu moins de tout ça.
Daniel Eisenberg, je crois que ce film, L'objet instable, est la première étape d'un projet en trois étapes. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Yes, it is the first part of a three-film series.
Effectivement, il s'agit de la première partie d'une série de trois films.
And each of these films will have three sites.
Et chacun de ces films seront tournés sur trois sites.
And so the second film is now in the conceptual stage, and I'm looking, I'm researching sites for that film.
Voilà, donc j'en suis à la phase du concept hein, pour le deuxième film, et je suis en train donc de rechercher des sites de tournage.
And I'm also looking at the kind of geographical dispersion of sites.
Voilà, je m'intéresse aussi à la dispersion géographique, à la répartition géographique de ces sites.
So it not only has to be the right kind of factory, but it has to be located in the right place.
Voilà, il s'agit non seulement de trouver des usines et des lieux de production intéressants, mais aussi qu'ils soient situés dans les bons endroits qui m'intéressent.
Because the coordinates are a meaning in and of themselves.
Puisque le lieu aussi vraiment a un sens.
Okay. All right. Thank
you. Voilà, c'était Daniel Eisenberg. Son film The Estable Object est projeté encore dans cette 22e édition du FIDS. Il sera projeté demain, lundi 11, à 14h30 à La Criée. La traduction a été assurée par Gaël Berouic et on en profite pour remercier Gaël parce que c'est en très très grande partie grâce à elle que tous ces feedmag peuvent avoir lieu à peu près comme prévu. Elle se démène comme un diable pour que tout ça puisse se passer. Grand merci Gaël, toute la part de Grenouille. On approche de la fin de ce feedmag. Sylvain Gonzalez a rencontré Elsa Kinnett, qui est une réalisatrice de La Vie est ailleurs, pour sa chronique coupée que vous entendez depuis plusieurs magazines. Je signale également que Sylvain, Gonzalez, c'est celui qui a signé le générique de ce feedmag, comme il avait fait il y a 2 ans encore, un fidèle de la grenouille au feed. Alors Sylvain, ben, on t'écoute, La Vie est ailleurs, Elsa Kinnett.
Alors Elsa Kinnett a réalisé La Vie est ailleurs, qui est un film en compétition française et en compétition premier film. Avec tendresse et humour noir, elle filme sa grand-mère à la lisière de sa vie. Et par le montage, la réalisatrice alterne des séquences familiales et des séquences de rites funéraires hindous. Deux rites pour deux traversées dans l'au-delà. Pour la chronique coupée, elle évoque le montage de son film.
Les premières images, je les ai tournées dans le cadre d'une formation qui s'appelle les Ateliers Varan en 2002. Et ensuite, j'ai continué à tourner, donc c'était des images de ma grand-mère. Et j'ai continué à tourner comme ça de manière ponctuelle pendant 3 ans. Et puis je suis partie tourner en Inde, à Bénarès, à 2 reprises, pendant plusieurs mois. Et ensuite, il y a eu toute une période assez longue d'écriture. Et donc, quand je me suis retrouvée au montage avec Claire Atherton, on était face à une matière assez énorme et très hétérogène. C'est-à-dire qu'on avait... Parce que j'ai tourné avec différentes caméras, dans différents formats. C'est pas un film que j'ai... Comment ? Que j'ai pensé en amont. C'est vraiment un film qui est né dans l'après-coup. Donc on se trouvait avec des images en 4 tiers, des images en 16 neuvièmes. Enfin bon, peut-être que ça évoque pas grand-chose, mais de différentes tailles, avec des matières très très différentes, des images très lisses parfois, ou alors complètement granuleuses et un peu fantomatiques. Et puis il y avait également des récits de cauchemars et des lettres, beaucoup de lettres. Et la grande difficulté au départ, quand on s'est retrouvé sur la table de montage, enfin devant le banc de montage, c'était de savoir comment lier toutes ces différentes matières. Ben, la structure générale, donc, c'est des images très personnelles, qui sont celles que j'ai tournées auprès de ma grand-mère. Et on a des images de voyage en Inde à Bénarès qui sont en deux temps, on va dire. Un premier temps qui se déroule dans les petites ruelles sombres de Bénarès entre la nuit et le jour, et qui sont très, très fantomatiques, et qui pour moi sont vraiment la continuité de mon imagination autour de la mort. Et du territoire, enfin une sorte de frontière brouillée entre les territoires des vivants et des morts, quoi. C'est vraiment, et il y a un second temps qui se passe sur le Burning Ghat, l'endroit où on brûle les morts à Bénarès, et qui là est beaucoup plus dans le réel. Et donc la structure, on a entremêlé ces deux histoires, cette histoire auprès de ma grand-mère et de toute une famille qui l'accompagne vers la mort dans un rapport très particulier, très singulier par rapport à cette mort, puisqu'on joue en permanence avec. Et donc ces voyages par ailleurs en Inde, donc c'est un entremêlement. Et puis, il y a une sorte de centre également. Donc il y a ce cœur qui concerne l'histoire familiale dans les années 40, donc autour de la Shoah, et qui est une sorte de hors-champ à tout le reste du film, en fait.
Alors, vous utilisez aussi beaucoup des images d'archives, mais aussi des photos.
Mais les photos, elles sont intégrées dans une séquence très très particulière. C'est cette séquence qui se passe dans les rues de Bénarès, dans les rues piétonnes. C'est une sorte de labyrinthe, en fait, dans lequel je suis mon frère qui est photographe. Ce qui m'intéressait dans ces photos, c'est qu'elles sont un petit peu l'envers de ces images d'archives, donc, qui ont été tournées en 1943 par mes grands-parents. Donc en temps de guerre, pendant leur exil dans le sud de la France, puisqu'ils étaient juifs, donc ils se cachaient là-bas. Et donc ils se filment, et ils ne filment que des instants de bonheur. Et deux générations plus tard, mon frère et moi, on prend un appareil photo et moi une caméra. Et nous, on filme des fantômes et des images de morts vivants. Et mon frère, il photographie beaucoup de situations où l'horreur est présente, quoi. Voilà, c'est comme si ça faisait, c'est ce qui avait été camouflé en fait dans ces films d'archives rejaillissait dans ce qu'on faisait mon frère et moi, et comme si on était hanté par quelque chose de cette histoire, voilà, qui avec des morts qui ont pas pu qu'on n'a pas quitté, je pense. Tout le travail avec Claire Atherton, de trouver comment créer des résonances entre ces images très intimes et parisiennes et ces images complètement ouvertes sur l'extérieur en Inde. Et c'est vrai qu'on a senti quand même très vite qu'il y avait des réponses qui étaient possibles entre ces différents temps de tournage, quoi. Enfin, ces différentes matières. Elle travaille vraiment à créer des échos entre des plans et des séquences très différentes. Et elle travaille par association d'images. Le rythme est très important et c'est comme ça que le récit se crée, quoi. C'est vraiment en partant de la matière.
C'était vraiment une nécessité pour vous de faire appel à un monteur ou une monteuse en l'occurrence ?
Alors j'ai cru naïvement que je pouvais monter mon film toute seule au départ. Enfin, déjà, il y a la nécessité, quand c'est une histoire aussi personnelle, j'étais collée moi à ce que j'avais filmé, donc il y a la nécessité d'avoir un autre à côté de vous qui vous décolle un petit peu de ce que vous avez sous les yeux, qui vous interroge, qui vous amène à voir aussi tout bêtement des fois ce que vous avez fait de manière presque aveugle, hein, et ensuite c'est un art, le montage, quoi.
Voilà, c'est avec cette chronique coupée de Sylvain Gonzalez dans laquelle il interviewait Elsa Kinnett que ce Filmag se termine. Un Filmag finalement très à l'image de ce festival international, le FID, 22e édition, puisqu'on est passé de l'Espagne au pays des Vikings, à la Turquie, aux États-Unis, à l'Allemagne et pour finir en Inde. Cette semaine spéciale consacrée à cette 22e édition du FID se clôturera demain, dernier jour du FID avec la remise des prix, tout ça. Le FIDMAG sera un FIDMAG road movie et huis clos. Les réalisateurs invités seront entre autres Christophe Bisson pour road movie et Pierre Carniaux pour l'Astrum. Voilà. En ce qui concerne l'antenne de la grenouille, à suivre tout de suite un live en stock d'Amfunk et Master Blaster. Ça sera suivi à 20h par Audiométrique et plus tard à 23h30 par la diffusion d'un documentaire. Cette semaine, FID s'accompagne d'une programmation de documentaires concoctée par Florian Pochon. 4 diffusions par jour, 10h, 14h30, 17h et 23h30. Si mes souvenirs sont bons, donc une diffusion ce soir à 20h30, à 23h30. Merci d'avoir été à l'écoute. À bientôt sur la grenouille.
The dangers of inaction are far, far greater. People on the ground.